Mesdames et messieurs les députés, la séance est reprise. Je voudrais rappeler à toutes choses utiles à l'attention des honorables députés qu'après la présentation du rapport général de la Commission des finances, l'intervention succincte du ministre des Finances, nous avions ouvert les discussions générales. Et au cours de ces discussions, nous avons écouté beaucoup de commentaires et nous avons au passage saisi un certain nombre de questions et interrogations qui ont été formulées par les différents intervenants. Nous avions suspendu afin de permettre au ministre des Finances présent de préparer les réponses par thème, conformément aux dispositions du règlement intérieur. Nous avions également demandé la présence du ministre d'État chargé du plan afin que l'aspect relatif à la mobilisation des ressources extérieures qui le concerne de manière spécifique, il puisse apporter les réponses aux inquiétudes que vous avez exprimées. Nous avons donc prévu de reprendre à 18h et je vois que les députés qui ont eu le courage de venir sont malgré tout nombreux. Alors, avec votre accord à tous, nous allons demander tout d'abord au ministre des Finances de bien vouloir monter à la tribune pour vous répondre. Par la suite, nous donnerons la parole au ministre d'État pour compléter les réponses par rapport à ce qui le concerne. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement. Oui.
Sache les points sur lesquels portera son intervention.
D'accord. Il s'est agi essentiellement, monsieur le ministre, de nous dire au niveau du Parlement, en tout cas à travers les différentes interventions, c'est ce que j'ai retenu, de rassurer les honorables députés sur l'effectivité des ressources mobilisées et inscrites au budget. Parce que pour beaucoup d'entre eux, si l'exécution du budget a connu au cours de l'année 2012, des difficultés. Pour eux, c'était sans doute lié à l'insuffisance des décaissements des ressources annoncées venant de l'extérieur. Et ils se sont posé la question de savoir si ces ressources annoncées sont réelles du point de vue de leur décaissement à temps ou sont de vagues promesses qui ont été exprimées à l'occasion des visites et même à l'occasion de la dernière table ronde que vous avez tenue avec le chef d'État à Paris. Et certains se sont demandé, mais ces fonds qui ont été annoncés 2012-2015 et qui se chiffrait à près de 2800 milliards, je crois, si je me trompe, pourquoi ces fonds n'ont pas fait l'objet d'inscription au budget pour ce qui concerne la part de l'année 2013? Donc, comme c'est vous seul qui pouvez nous répondre à ces questions, nous avons souhaité votre présence. C'est bien ce que vous avez dit, hein? Bon, pas entièrement. Bon, complète ce que je n'ai pas dit. Monsieur le Président, le souci c'était de nous assurer que les taux de consommation du budget 2012 n'a pas été le fait d'autre chose que des problèmes de la lenteur de notre processus de passation des marchés et autres, que ces ressources, comme vous l'avez dit, sont rentrées, essentiellement par rapport à 2012.
Donc, ça revient à ce que j'ai dit.
Oui, mais...
Vous êtes sûr que l'argent a été décaissé?
Oui, mais je vois que ça a été un peu noyé plutôt dans les PDS, qui est autre chose.
Non, en dehors de vous, il y a eu d'autres qui ont posé le problème sous l'angle
de l'exprimer. Oui, bien sûr, je suis d'accord.
J'essaie de faire une synthèse qui prend en compte tous les aspects. Pas seulement les aspects liés à vos questions. D'accord? Monsieur le ministre d'État, vous avez bien noté les préoccupations qui sont à la base de votre convocation. Très bien. Monsieur le ministre des Finances.
Merci, Excellence, Monsieur le Président, honorable député. On a essayé de regrouper les questions par thème. Peut-être à la fin, on va regarder un peu quelques questions spécifiques. Si on suit la chronologie dans la préparation du budget, on va commencer par le budget 2012, donc c'est-à-dire l'état d'exécution de ce budget et le niveau de consommation des crédits. Jusqu'à fin octobre, on a vu que le niveau de consommation...
Monsieur le ministre, les micros, utilisez-les mieux parce qu'apparemment... Les députés me font signe qu'ils n'entendent pas. Mettez-nous les micros du... Voilà.
Voilà. Monsieur, Excellence, Monsieur le Président, honorable député, je disais que je vais essayer de ramasser toutes les questions par grand thème, comme vous l'avez demandé, et peut-être à la fin, on verra quelques questions spécifiques. Je disais que si on suit la chronologie en ce qui concerne la préparation du budget, donc nous partons d'abord de l'exécution du budget 2012. Il a été établi qu'à fin octobre, le taux de consommation est de 55,2%, ce qui est faible. Une projection linéaire amène ce taux à autour de 71%. Mais ici, il faut préciser une chose, c'est que compte tenu du retard que certains des services dépensiers mettent à préparer les marchés, il se trouve qu'en fin d'exercice, dans le dernier trimestre de l'année, il y a beaucoup de marchés qui viennent. Donc une projection linéaire ne donne pas forcément le bon taux. Donc j'ai dit une projection linéaire va donner un niveau de consommation à fin décembre de 71%. Mais compte tenu de l'afflux des marchés en fin d'exercice budgétaire, ça peut dépasser le 71%. Toujours est-il dit qu'on retient que le taux, le niveau de consommation n'est pas suffisant. Quels sont les facteurs explicatifs? À plusieurs reprises, nous avons donné des explications, mais je voudrais ici me baser sur le travail du comité que le gouvernement a mis en place pour étudier ce bas niveau de consommation des crédits et quels en sont les facteurs explicatifs selon ce comité, donc pas selon le ministre des Finances. Je vais peut-être ajouter des commentaires. Il y a d'abord, et ça rejoint des questions que certains députés ont posées, qui rejoint le réalisme dans la préparation du budget, c'est d'abord donc la surévaluation des prévisions de recettes budgétaires, donc qui souvent entraîne des problèmes de tension de trésorerie. C'est ensuite la libération tardive des crédits en début d'année budgétaire et la clôture des engagements avant le 31 décembre de l'exercice concerné. Si je prends le cas de l'exercice 2012, le budget 2012 a été mis en place au deuxième mois de l'année. Donc ça fait déjà un retard de plus d'un mois dans la mise en place du budget en tant que tel. Et les crédits, la libération des crédits du premier trimestre est intervenue donc vers la fin du mois de février, c'est-à-dire que le trimestre était déjà consommé. Donc il y a la libération tardive des crédits en début d'année budgétaire et la clôture des engagements avant le 31 décembre. Mais il faut dire également que cette année, je ne parle pas de l'année des années antérieures, peut-être que c'était comme ça, Même les autres, pour les autres trimestres, la libération n'a pas eu lieu en temps opportun. C'est-à-dire, quand j'ai dit temps opportun pour moi, libérer les crédits du troisième trimestre, c'est qu'ils soient disponibles au niveau des ministères prêts à être utilisés au 1er juillet, par exemple, pour le troisième trimestre. Or, là, souvent, même pour ce troisième trimestre, je crois, c'est après 2 semaines que les crédits ont été libérés et mis en place. Il y a comme troisième raison le système de la régulation budgétaire. Donc on fait la régulation pour tenir compte de la situation exacte de la trésorerie, pour ne pas envoyer des dépenses, des factures au niveau du trésor, alors que les recettes ne sont pas suffisantes pour faire face donc à ces dépenses et pour ne pas constituer, accumuler des arriérés. Donc c'est pour ça qu'on fait la régulation budgétaire. Il y a la lourdeur de la procédure d'exécution des dépenses liée à la multiplicité des contrôles, particulièrement pour celles nécessitant la passation de marché public. Il y a également la complexité et la diversité des procédures de décaissement des fonds extérieurs et l'insuffisance de la coordination des actions entre les administrations nigériennes lors des négociations et de l'exécution des accords de financement extérieur. Il y a également donc le manque d'anticipation des services dépensiers. Ce sont donc les raisons, comme j'ai dit, qui ont été soulignées par le comité qui a été mis en place par le gouvernement pour examiner ce problème de la lenteur et du bas niveau de la consommation des crédits. Je ne vais pas en ajouter parce qu'il y en a juste, ça va être un examen personnel, bien que j'ai des explications personnelles également. Par rapport à ça, on a prévu des mesures correctives. Toujours, dixit le comité, donc les mesures correctives sont proposées dans le rapport des audits consultés sur ce sujet, parce qu'il y a eu des audits également, et ces mesures sont relatives à quoi? D'abord, au renforcement des capacités des administrations financières par la formation ou le perfectionnement du personnel et leur dotation en moyens matériels adéquats et suffisants. Il y a donc la conception et la mise en application lors de l'élaboration du budget d'une méthodologie permettant une meilleure évaluation des recettes et une plus grande rigueur dans la détermination des besoins et de leur programmation. Il y a donc la négociation avec les partenaires extérieurs par rapport à cette négociation. On peut citer certaines conditionnalités dont les difficultés de leur respect ont été identifiées dans ces audits. Il y a également l'application donc de la régulation budgétaire. On demande de la faire uniquement en réponse à la conjoncture et dans le strict respect des textes, c'est-à-dire il faut qu'il ait un traitement prioritaire devant être réservé à la contrepartie de l'État au financement extérieur. Il y a la simplification de la procédure d'exécution des dépenses, particulièrement les contrôles préalables et spécifiquement les dispositions applicables aux dépenses soumises à la procédure des marchés publics. Donc, simplification de ces procédures. Il y a également, comme mesure, l'élaboration de manières de procédure à l'usage des acteurs, particulièrement ceux intervenant en matière de marché public ou dans des opérations comportant un volet financement extérieur. Il y a également comme mesure l'accélération du programme donc e-gouvernement, c'est un programme de net internet, et de la mise en place de l'internet gouvernemental pour permettre l'utilisation à grande échelle des TIC au sein des administrations publiques et leur interconnexion. Enfin, il y a la remise au travail des administrations impliquées dans le processus par l'institution de la méthode de gestion axée sur les résultats, qui permet donc une évaluation systématique des agents sur la base d'objectifs préétablis, ce qui permet une appréciation du travail de l'agent, de trouver des correctifs ou de prendre des sanctions ou de récompenser les agents, et donc en les distinguant sur la base de la qualité des prestations fournies. Il s'agit là, Monsieur le Président honorable, donc des conclusions donc de ce comité et qui ajoute que les mesures correctives émises sur la base des faits non vérifiés s'illustrent particulièrement par la mise en cause de structures de contrôle dont la création ou l'insuffisance de professionnalisme des animateurs serait en partie à la base de la faiblesse du taux de consommation des crédits. La Direction générale du marché public, créée au sein du ministère des Finances, est l'une des structures très souvent incriminées sur la base d'impressions non confirmées par les données statistiques. Ainsi, en 2011, sur 541 dossiers reçus par la Direction générale du contrôle des marchés publics, Donc, elle a émis un avis favorable sur 342 dossiers et rejeté 189 dossiers dont aucun ne lui est retransmis. En 2012, sur 345 dossiers reçus, donc elle a émis un avis favorable sur 234 dossiers et rejeté pour non-conformité, donc 111 dossiers dont aucun ne lui est retransmis. Les informations obtenues qui restent certes à confirmer ne comportent pas d'éléments permettant d'affirmer que les délais de traitement des dossiers prescrits et la réglementation ne sont pas respectés par la DGNP. Il est donc permis d'admettre que la non-réalisation de certains investissements pour absence de marché public résulte surtout de l'absence de réactivité ou de la faible capacité des administrations responsables des projets de marché public. Donc l'absence de réalisme concerne spécifiquement le nombre élevé de mesures correctives pour lesquelles aucune hiérarchie n'est indiquée. Voilà donc, Monsieur le Président, on a vu ça, c'est le rapport du comité qui a été mis en place justement pour regarder de près les raisons qui font que le niveau de consommation des crédits est très faible et de proposer des mesures. Il y a des mesures spécifiques qui ont été proposées en ce qui concerne la procédure de passation des marchés. Donc, en ce qui concerne le niveau de consommation de crédit et les mesures proposées pour corriger, pour élever ce niveau de crédit, je me suis permis donc de vous présenter le résultat du rapport du comité qui a été commis par le gouvernement à cet effet. J'en viens maintenant donc ça, c'est exercice 2012, à l'exercice donc 2013, où la question posée et le taux de croissance économique utilisé dans le cadrage macroéconomique du projet de budget 2013. Est-ce qu'il est réaliste ou est-ce qu'il est réalisable? Alors, dans l'exercice du cadrage macroéconomique 2013-2015, il a été envisagé trois scénarios, notamment un scénario de base ou scénario de référence qui se fonde sur l'évolution économique et financière dans un contexte de politique inchangée, un scénario de forte croissance ou scénario optimiste qui est bâti à partir des hypothèses volontaires soutenues par des mesures spécifiques nouvelles, un scénario de faible croissance ou scénario catastrophique qui repose sur des hypothèses pessimistes résultant d'un environnement socio-économique défavorable. Sur la période 2013-2015, au départ, le taux de croissance annuel moyen utilisé était de 6,5% pour le scénario de base, 10,1% pour le scénario optimiste et 2,5% pour le scénario de faible croissance. Le scénario de référence a servi de base à l'élaboration du projet de budget 2013. Le taux de croissance annuel moyen de 6,5% est celui convenu dans le mémorandum de politique économique et financière avec le FMI dans le cadre du programme économique et financier 2012-2014. En intégrant les hypothèses du programme de développement économique et social 2012-2015, un taux de croissance annuel moyen de 8% a été retenu pour le scénario de référence. C'est sur cette base, donc, dans le projet du budget 2013, il a été envisagé une augmentation donc, de ce taux de croissance qui est passé à 1,6%. Et donc, les prévisions de recettes ont été calculées.
Gala.
Sur cette base, donc, en fonction du taux qui a été pris en considération au niveau du programme de développement économique et social. La deuxième question dit ceci, pourquoi on propose des prévisions budgétaires en baisse en 2013 au regard du taux de croissance économique retenu et du taux d'inflation futur? En 2013, le taux de croissance économique projeté, c'est-à-dire 8%, est inférieur à celui estimé en 2012, donc qui est de 11,6%, ce qui devrait induire à la politique inchangée une baisse de recettes budgétaires. Mais dans le projet de budget 2013, les recettes internes ont été prévues à la hausse en stabilisant 834 milliards, j'arrondis, contre 725 milliards dans le troisième collectif 2012, soit une augmentation de 100 milliards. Par contre, les ressources extérieures sont ressorties en baisse dans le projet de budget 2013 par rapport au troisième collectif 2012. Elles passent de 622 milliards arrondis dans le troisième collectif 2012 à 467 milliards dans le projet de budget 2013, soit une diminution de 155 milliards. La progression des recettes internes ne compense pas la diminution des ressources extérieures, ce qui explique fondamentalement la baisse constatée du projet de budget 2013 par rapport à celui de 2012. Cependant, ces chiffres dénotent la poursuite de l'engagement de l'État à privilégier les recettes internes pour le financement de son programme. Par ailleurs, dans le contexte de notre pays, il n'existe pas une corrélation directe entre la baisse des prévisions budgétaires constatées et le taux d'inflation projeté en 2013. L'inflation est définie comme une hausse du niveau général des prix. Elle a été maîtrisée en 2011 et 2012 avec respectivement des taux de 2,9% et de 0,6%. Les relations entre le budget et le PDS. Le PDS donc porte sur la période 2012-2015 et ce qui a été présenté lors de la table ronde tenue à Paris les 13 et 14 novembre 2012. Les bailleurs de fonds donc ont avancé leur contribution au financement de ce programme de développement économique et social sur donc la période considérée qui est de 2012 à 2015. Certains financements annoncés sont nouveaux, mais d'autres s'inscrivent dans un cadre donc de coopération déjà existant où il a été prévu soit des réajustements à l'intérieur des programmes en cours d'exécution ou un renforcement de ressources financières sur la période considérée par le programme de développement économique et social. Donc, toute proportion gardée, le projet de budget 2013 a été transmis à l'Assemblée nationale avant la tenue de la table ronde. Donc, je voudrais rappeler également que le solde de financement qui a été recherché par l'organisation de la table ronde a considéré donc la mobilisation des ressources internes sur la période, les financements extérieurs acquis sur la période, plus maintenant on a fait la différence avec les besoins établis par le programme de développement économique et social. Donc le solde à rechercher s'étant élevé à 4 milliards 700 millions de dollars. Et c'est ce qui a été donc recherché au niveau de la table ronde. Et les résultats obtenus dépassent donc les 100%. Alors, je voudrais lier à cela un peu pour parler des exonérations, parce qu'elles rentrent dans le volume du budget, pour préciser quand même que les exonérations, en fait, elles ont une autre appellation, on les appelle les dépenses fiscales. Et lorsqu'on a un financement extérieur, l'État concerne des exonérations. Donc, ces exonérations concernent essentiellement les investissements. Et il y a plusieurs années, ces investissements étaient également comptabilisés pour mesurer les niveaux de mobilisation de ressources et pour obtenir des financements de la BCAO, donc qui étaient basés sur le niveau de recettes. Donc, c'est pour ça que cela a été, depuis, donc existe dans le budget. J'en viens maintenant au problème de la lettre qui a été envoyée, n'est-ce pas, pour revoir à la hausse les recettes du budget 2013. Donc, la note avait pour objet, Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée, honorable député, de donner certaines précisions quant au réaménagement éventuel pouvant être apporté au budget 2013. Il vous souviendra, n'est-ce pas, que vous avez adopté le troisième collectif, qui a eu comme un des objectifs, de diminuer les ressources du budget 2012 telles qu'issues du deuxième collectif, n'est-ce pas, et de reporter certaines de ces ressources sur le budget 2013. C'est ainsi que on a constaté une diminution de recettes de l'Union européenne de 2,6 milliards. On a constaté une réduction des recettes de l'AFD, c'est-à-dire de la coopération française, pour un montant de 15 millions d'euros, soit 9,8 milliards. Et également le décaissement de la deuxième tranche du FMI de 8,5 milliards qui devait intervenir si la revue avait eu lieu en septembre, mais cette revue n'a eu lieu qu'en novembre. Et ce sont les résultats de cette revue qui vont être soumis au conseil d'administration du fonds en début février et qui va occasionner le décaissement de cette deuxième tranche. Donc, cette deuxième tranche qui avait été prévue dans le budget 2012 doit également être reportée. Bien. En plus de ça, il y a à peine 2 semaines, le ministre d'État est là. Je pense que le ministre qui peut donner le plus d'informations, c'est le ministre d'État chargé des mines, Donc, dans la négociation, les discussions avec Areva, Areva a promis un don. Ce n'est pas un prêt et ce n'est lié à aucune dépense. Un don de 35 millions d'euros sur 3 ans. 35 millions d'euros sur 3 ans. Et sur ces 35 millions d'euros, c'est les deux premières tranches, 2012-2013, qui font donc 26 millions d'euros, qui ont été proposés donc d'être pris en considération dans le budget 2013. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas le document définitif. Il était question que la direction générale d'Areva prenne rendez-vous avec le ministre d'État, le ministre des Mines, pour finaliser cela. Donc, c'est une information donc, qui nous est parvenue il y a à peine 2 semaines et qui va se concrétiser incessamment. Alors, donc il faut indiquer que ces conditions de réaménagement du projet de loi de finances qui ont été adoptées par le gouvernement et transmises à l'Assemblée nationale sont principalement régies par les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 111 de la Constitution dispose que les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économie équivalente. Cet article sous-entend implicitement que les propositions d'amendements, sauf dans le cas explicitement visé ci-dessus, relève sans réserve de la compétence du gouvernement. Quant au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il précise notamment en son article 103 les conditions où des modifications peuvent être apportées au projet de loi de finances déposé à l'Assemblée nationale en reconnaissant exclusivement au gouvernement et à la Commission des finances et du budget cette possibilité. En dehors de ces deux cas, les modifications au projet de loi ne peuvent intervenir que suite à un amendement d'un député régulièrement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et tenant compte des limites imposées par l'article 111 précité. Le ministre des Finances représentant le gouvernement, à l'occasion donc, de l'examen du projet de loi des finances 2013, a cru bon de proposer à la Commission des finances donc ces modifications-là pour parfaire le projet de budget 2013. Dans la pratique, les propositions d'amendement seront notifiées par lettre du ministre des Finances au président de la Commission des Finances et du Budget. Il les présentera à l'appréciation des membres de la dite commission. Il faut toutefois noter que les nouvelles propositions doivent s'inscrire dans le cadre de l'équilibre général du budget, du projet de loi des finances en examen. Voilà donc ce qui nous a amené à adresser cette lettre avec les détails des recettes et les propositions de dépenses. Je voudrais préciser que le montant du don d'Areva n'est lié à aucune dépense. Areva n'a pas dit « je vous donne pour acheter X pour couvrir telle dépense ». Il y a des besoins qui sont fait exprimer. Il y a déjà une première inscription pour l'avion présidentiel dans le budget 2013, mais insignifiant, qui ne peut pas faire face donc aux besoins réels. Donc, comptez certainement compléter à l'occasion des collectifs qui interviendraient au cours de l'exercice 2013. Il se trouve que au dernier moment, il y a 2 semaines après, donc il y a ce don. Et je vais également préciser que ce don ne lie en rien du tout le gouvernement dans son engagement à avoir des conventions gagnant-gagnant avec la Areva. Voilà. Bon, ça, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Donc, voilà la réponse que je peux donner, Monsieur le Président honorable, à cette question qui a été posée. J'en viens maintenant à l'insuffisance des dotations budgétaires et les omissions de certaines structures. Je vais rappeler, et je souhaiterais que les honorables députés en tiennent compte, je vais simplement faire une démonstration. Quand vous prenez les recettes internes, douane, DGI, impôts, en cash, elles sont de 573 milliards. Je dis bien 573 milliards. Vous commencez par payer vos dettes, 62 milliards 4. Vous payez ensuite le salaire du personnel. 160 millions. 160 milliards, pardon. Ensuite, le fonctionnement, 91 milliards. Ensuite, les subventions et transferts. Ce qui reste, doit vous rester une cinquantaine de milliards sur lesquels vous devez prélever le budget de l'Assemblée nationale. Donc, le produit, enfin, ce qui reste pour le financement du volet trésor, n'est-ce pas, est à peine égal à 40 milliards. Sauf donc à réduire au niveau des dépenses, subventions et transferts pour compléter. Donc c'est pour dire que on est dans une situation de recettes qui ne permettent pas de couvrir tous les besoins, de couvrir, en tout cas de satisfaire toutes les demandes qui se présentent au gouvernement. Il y a eu un arbitrage. Bien sûr que le budget est passé devant au conseil de cabinet. Bien sûr que le budget est passé en conseil des ministres. Et la mouture qui vous a été envoyée, c'est le budget issu du conseil des ministres. Mais ça, c'est la nature du budget que les ministères dépensiers ne sont jamais satisfaits du montant qu'on leur donne parce qu'ils veulent toujours plus, et c'est normal, ils ont raison, mais on est obligé de se limiter au niveau des capacités de l'État en matière de mobilisation, donc de ressources externes. On a parlé des structures qui ont été omises. Je pense qu'au niveau de la commission des finances, beaucoup de ces omissions ont été réparées. Celles qui n'ont pas pu l'être, parce que les demandes sont assez élevées, le seront certainement au cours de l'exercice 2013, lorsque des opportunités se présenteront. Donc pour faire des collectifs. Si on prend par exemple les omissions notées par rapport au ministère de la Santé, mais c'est qu'il y a des dépenses qui sont transférées du ministère de la Santé à la présidence. Par exemple, le programme SIDA est transféré. Donc ces crédits sont transférés. Il y a les produits antituberculeux qui ont été prévus pour 575 millions. Donc, il y a eu ce transfert-là, ce qui fait que le budget du ministère de la Santé va baisser à concurrence du montant qui a été transféré au niveau de la présidence de la République. C'était une décision donc des chefs d'État par rapport à ce transfert des crédits et de la gestion, donc, si vous voulez, de ce volet relativement au ministère donc de la Santé. Il y a maintenant le problème des dépenses de salaire. Le président de l'Assemblée l'avait dit, c'est des crédits évaluatifs. Oui, je veux dire que le salaire tel que présenté par le budget peut ne pas refléter la réalité si on s'en tient au titre 2. Pour le budget 2013, il y a une inscription de 160 milliards. Elle peut ne pas être suffisante, mais c'est un crédit évaluatif. Mais à cela, il faut ajouter d'autres dépenses de salaire qui se trouvent dans le chapitre subventions et transferts. C'est les pécules. C'est le salaire des appelés du service civique. Donc si vous ajoutez effectivement tous ces montants-là, vous arrivez à la réponse que j'avais donnée une fois ici, à ce moment précis où la question m'avait été posée, à savoir à combien s'élève le montant des salaires. Et j'avais dit à ce moment-là, à cette date précise, que chaque mois, le Trésor sort 18 milliards pour payer tout ce qui est salaire. C'est vrai, quand vous faites 18 fois 12, vous dépassez les 160 qui figurent ici. Mais, je vous l'avais expliqué également, c'est qu'on a plusieurs tiroirs dans lesquels on range ces salaires-là. Et que, actuellement, présentement, l'UEMOA est en train de revoir ces directives-là pour définir avec précision ce qu'on appelle masse salariale. Et c'est à partir de ce moment qu'on va tous se conformer à cette définition-là et à classer maintenant dans le budget tout ce qui est salaire du personnel, peut-être dans un même titre, dans un même chapitre. Mais je crois qu'au début, on a voulu donc faire un traitement spécifique, même sur le plan budgétaire, aux salaires qui sont payés aux contractuels. C'est pour ça que je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison, je suis incapable de le dire, pourquoi on les appelle pécules, pourquoi on ne les appelle pas salaires. Mais, encore une fois, ces pécules se trouvent donc dans le titre 4 de ce budget, et c'est quand vous ajoutez donc les salaires, quand vous ajoutez les indemnités, quand vous ajoutez les pécules et les salaires des affiliés du service civique, que vous avez un paiement mensuel de l'ordre de 18 milliards. Effectivement, 18 fois 12, ça fait déjà 180 plus 36, ça vous amène dans les 206 milliards. 216 milliards, et c'est ça la réalité. Mais, salaire personnel, c'est uniquement les personnels de la fonction publique, comme on dit, qui ont quoi? Qui ont un matricule? Je ne sais pas comment on va les appeler. Voilà. Alors, comme j'ai dit,
Oui, continue.
Donc ça, c'est en ce qui concerne les salaires, la masse salariale, et à fin octobre, si je prends l'évolution donc, de cette masse, telle que je viens de la donner maintenant, au titre 2, elle a évolué en 2005, elle était de 50 milliards. 2005. Aujourd'hui, rien que le titre 2, on va tendre vers 150 milliards en fin d'année budgétaire. Donc, elle a connu une progression extraordinaire. 50 milliards en 2005, 56 milliards en 2006, 57 en 2007. Tout ça, c'était raisonnable. 65 en 2008, 72 en 2009, 2010, 78 milliards, 2011, 101 milliards, consécutifs aux deux augmentations successives. Et on va arriver cette année autour de 150 milliards. Donc voilà en ce qui concerne le problème de la masse salariale qui, si elle n'est pas maîtrisée, effectivement, peut créer des problèmes, notamment dans le respect du ratio de 35% tel que défini par l'UEMOA. Il y a des questions qui ont été posées sur l'ISP. Donc, les prévisions 2011 étaient de 83 milliards. 600 millions. Et les réalisations à fin octobre s'étaient élevées à 91 milliards 249 millions. Donc les prévisions de 105 milliards, nous pensons n'est pas exagérées, parce que si à fin octobre on a réalisé 91 milliards, nous pensons que à fin décembre, on peut largement atteindre les 100 milliards. Et les prévisions, donc, qui sont contenues dans le budget 2013, ne sont pas exagérées. Donc, les prévisions de 105 milliards, n'est pas exagéré, compte tenu, donc, de la réalisation. Et les projections, en tout cas, à fin décembre 2012, nous amènent à des réalisations, de l'ordre de 100 milliards. Deuxièmement, je veux dire ceci. Dans l'ISB, vous avez une partie des recettes issues du pétrole. C'est la taxe oil. La taxe oil du pétrole est intégrée dans l'ISB. Cette année, comme on l'a déjà dit, la capacité atteinte par la SORAL était...
L'ISB, là, c'est quoi?
Impôt sur les bénéfices.
C'est pour que ceux qui nous écoutent comprennent.
Voilà, c'est l'impôt sur les bénéfices. Donc, la taxe oil, au niveau de la Direction générale des impôts, est incorporée dans la rubrique impôt sur les bénéfices. Je disais qu'en 2012, la capacité était produite, traitée, était de 12 000 barils par jour, alors qu'on avait tablé sur 20 000. Donc, pour 2013, Les prévisions, pour être prudent, ont retenu 16 000 barils par jour, au lieu de 12 000. Donc nous pensons que vraiment, les prévisions de 105 milliards, compte tenu de ces données, peuvent être réalisées. Alors, j'en viens maintenant à, toujours sur les recettes, au niveau des dividendes. Au niveau des dividendes, donc, on peut donner la même explication, parce que on dit pourquoi on a prévu 42 milliards. Là, il s'agit, en ce qui concerne le pétrole, de ce qu'on a appelé le profit oil, pour lesquels les prévisions de 2012 ont été corrigées, et sur la base de 12 000 barils, on a ramené ça à 6 milliards. Donc, on pense que 16 000 barils le jour pour 2013 est quelque chose de raisonnable, mais il semble que déjà, on tend vers les 20 000 barils le jour, d'après les dernières informations qu'on a reçues. Bien. Donc, nous pensons que là également, les prévisions de 52, de 53 milliards de recettes non fiscales, donc qui comprennent les dividendes, qui comprennent les recettes de toutes les régies financières, qui vont comprendre les recettes, parce que le problème est en train d'être traité entre les finances et le ministère de la Justice, donc les recettes au niveau donc du ministère de la Justice, la régie de recettes, est en train d'être donc réglé avec donc un accord avec le ministère de la Justice. Nous pensons que vraiment les prévisions de recettes non fiscales à hauteur de 53 milliards n'est pas exagérée. Il y a maintenant, Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Député, des questions, notamment en ce qui concerne la construction des cas. Si on prend le financement extérieur au profit du secteur de l'éducation, on voit que ce financement a connu une baisse régulière pour se situer en 2012 à un niveau de 8 milliards alors qu'il était de 19 milliards en 2009. Bien. Je vous ai fait un calcul rapide de l'affectation des ressources. Lorsqu'un secteur n'a pas beaucoup de financement extérieur, ça veut dire que l'effort essentiel doit être concentré sur les ressources propres. Pour 3000 classes, les calculs ont été faits. Il est difficile d'avoir cela dans le budget sur recettes propres sans faire appel à des financements extérieurs. Donc, les 3000 classes de 2013, nous pensons que pour partie, elles vont être réalisées sur les ressources propres et pour partie sur des financements extérieurs. Il s'agit ici du budget initial 2013. Donc, au cours de l'exercice 2013, le gouvernement va s'attacher donc à mobiliser des ressources en faveur donc la construction des classes et donc à l'occasion des collectifs, espère pouvoir trouver les ressources nécessaires pour le financement de ces 3000 classes. Un calcul a été fait pour dire que le gap, si on prend 2012 et 2013, c'est 30 milliards qu'il faut chercher. Je conçois qu'il y a un retard assez préoccupant qui est enregistré. Mais nous pensons pouvoir avoir le financement 2013 pour ces constructions. Je ne vais pas... le ministre du Plan est là, qui est le responsable en chef de la mobilisation des ressources externes. Et nous pensons, nous sommes optimistes, vraiment, du point de vue, en tout cas, de la mobilisation des ressources financières, pour pouvoir faire face aux besoins en ce qui concerne donc la construction des classes. Donc, on a parlé de dividendes, la construction des classes. La baisse du budget du cabinet du Premier ministre a été posée, la question a été posée par un député. Pour cet exercice, je me souviens, on s'est assis avec le directeur du cabinet du Premier ministre pour revoir le budget 2013 du cabinet du Premier ministre. Et on est arrivé à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas de manière délibérée que les ministères des Finances ont fait ces réductions, c'est en accord avec le cabinet du Premier ministre, et c'est compte tenu de certains investissements et de certains financements qui ne seront pas renouvelés, et de certains transferts qui ont été pris en compte. Prise en compte des investissements des ONG dans le budget, c'est une réflexion qu'il faut mener, le ministre d'État, le ministre du Plan est là. Je vais simplement rappeler que, comme l'a dit un député, il y a 1300 ONG au Niger, entre les ONG internationales et les ONG nationales. Donc les prendre, c'est vrai qu'elles font des investissements. Alors, dans quelle mesure il faut les prendre dans le budget, je dis que c'est une réflexion qu'il faut mener pour voir si c'est possible de les prendre dans le budget et sur la base de quels critères, de quelles informations on va prendre en considération donc c'est les investissements qui sont réalisé par les ONG. Une question a été également posée en ce qui concerne l'agence d'assistance juridique. Je veux dire simplement qu'il y a une prévision de 150 millions qui a été prévue sur ça. Et en ce qui concerne l'étude en ce qui concerne le marché Et en ce qui concerne l'hôpital de référence de Maradi, je pense qu'il y a des fonds d'études qui sont prévus et qui peuvent servir à réaliser ces études-là. Par rapport aux routes, je ne peux pas vous donner le détail, route par route. Tout ce que je peux dire, c'est que le budget 2013 en résulte une progression de 25 milliards en ce qui concerne les routes, 25 milliards par rapport à 2012. En 2012, c'était 118 milliards qui avaient été prévus pour les routes, et en 2013, c'est 103 milliards qui ont été prévus. Une liste de ces routes sont précisées dans le budget. Maintenant, si j'en viens à des questions spécifiques, à des contributions que les députés ont faites, donc que le ministère des Finances et le gouvernement vont prendre en considération, en ce qui concerne les institutions. Beaucoup de députés ont posé des questions par rapport à ces institutions. Je veux préciser que, au moment où la commission des Finances était en train d'étudier le budget, on avait proposé une première augmentation. Donc, au total, pour les institutions, c'est en plus de ce que vous avez, c'est 850 millions d'augmentation que nous avons prévu pour les institutions. Ceci n'empêche pas qu'à l'occasion de l'exécution du budget 2013, lorsque des incidents seront constatés, notamment par rapport aux saisons, dont je crois que le budget doit se situer actuellement autour de 800-850 millions, donc d'apporter le correctif pour pouvoir permettre à cette institution de bien fonctionner. Je dis que, par rapport à ce qui vous a été envoyé, il y a 850 millions d'augmentations qui sont intervenues au profit donc de ces institutions-là. Alors, il y a également un député qui a posé une question en ce qui concerne l'électrification. Il y a 400 millions qui ont été inscrits sur ça. C'est peut-être insuffisant pour l'électrification des villages, mais il y a une inscription donc au profit de l'électrification des villages. Un député a posé des problèmes par rapport à l'ONAHA et au secteur de l'élevage. Bon, là également, comme je l'ai dit, il est difficile de les prévoir ici et tout de suite. Peut-être qu'à l'occasion des futurs collectifs, on pourrait envisager une réhabilitation de l'ONAHA pour lui permettre donc effectivement d'augmenter sa capacité de réalisation donc d'aménagement hydro-agricole. Il en est de même en ce qui concerne le secteur de l'élevage. Il y a un député qui a proposé qu'il y ait un contrôle donc, de la part du Parlement sur l'action gouvernementale. Il a même proposé que chaque commission s'occupe de manière spécifique des ministères dont elle examine le budget. Moi, je pense que c'est une très bonne proposition. Et si effectivement on peut la mettre à exécution, ceci facilitait d'abord, d'ailleurs, le débat parlementaire, qu'on a eu beaucoup de difficultés à faire cette année, enfin, qu'on n'a pas pu faire cette année, parce qu'il s'est posé à nous de savoir quelle est la période propice pour faire ce débat parlementaire. Est-ce qu'il fallait demander une session extraordinaire uniquement pour ça, ou est-ce qu'il fallait réfléchir à la procédure? Je pense qu'avec cette proposition, on pourrait s'acheminer vers peut-être l'adoption d'une période propice donc pour avoir ce débat parlementaire après les contrôles qui seront effectués par les différentes commissions, les contrôles donc de l'action gouvernementale. La création d'un fonds prioritaire d'urgence, a priori on n'a pas d'objection par rapport à cette proposition, donc on va l'étudier, on va étudier donc la possibilité, la faisabilité donc de la création de ce fonds prioritaire. Je pense effectivement, il y a des moments où le ministère des Finances est saisi pour faire des dépenses urgentes alors qu'il n'a pas de rubrique spécifique prévue à cette occasion-là. Donc ça pose des problèmes. Et comme les mouvements de crédit sont très réglementés, sont très stricts, je pense que ce serait une solution de prévoir une ligne, une rubrique au niveau du budget pour ces dépenses d'urgence. Il y avait à l'époque ce qu'on a appelé le FIP, le Fonds d'investissement prioritaire. Bien, il ne figure pas cette année dans votre budget parce que le Fonds d'investissement prioritaire, en fait, c'est un compte spécial du Trésor dans lequel tout le monde plonge, dans lequel tout le monde puise. Alors, pour éviter, si vous voulez, qu'il y ait ce problème, parce que il n'a pas d'affectation précise. On a préféré donc ne pas le reconduire cette année. Mais effectivement, je pense qu'un fonds d'urgence serait utile pour faire face à certaines demandes spécifiques. Bon, j'ai parlé du réalisme sur les prévisions budgétaires, je suis parfaitement d'accord. L'une des premières raisons qui font que peut-être les taux de consommation, les niveaux de consommation de crédit ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer, c'est d'abord le problème des prévisions. Je pense que si les bonnes prévisions sont faites, si elles sont réalistes, il y a beaucoup de chances pour qu'on atteigne un niveau de consommation des crédits qui soit nettement beaucoup plus élevé. Alors, j'en finis donc avec, encore une fois, le problème des exonérations. Comme je l'ai dit, ce sont des dépenses fiscales, les exonérations. Pour la première fois dans le budget, au lieu de les mettre au niveau du titre 4, subventions et transferts, on a préféré les mettre au niveau des investissements parce qu'elles sont liées en réalité aux investissements. Donc c'est là qu'on voit l'effort que l'État fait par rapport à ces investissements et notamment par rapport à l'apport de l'État lorsqu'il obtient des financements extérieurs qui souvent sont conditionnés donc à des exonérations, donc à ces dépenses fiscales-là. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire, ramassé par thème. En ce qui concerne donc les questions posées par les honorables députés, s'il y a d'autres questions, je suis disposé à répondre, à apporter beaucoup plus d'éclaircissements.
Merci, Monsieur le ministre. Mais il y a un fonds dont vous n'avez pas parlé,
oui,
qui existait dans le budget et qui a mystérieusement disparu. C'est le fonds de l'entretien routier. Nous avons beaucoup de routes bitumées, beaucoup de pistes. Ils sont en train de se dégrader. En principe, c'est une obligation pour l'État d'assurer leur entretien. Et comment se fait-il donc que ce fonds ait disparu?
Bien, excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, la réponse que je peux donner à cette question est la suivante, tout simplement, c'est que d'abord, l'entretien routier, pour le faire, on a commencé par prendre le péage. Du péage routier. Mais on s'est aperçu rapidement qu'il était insuffisant pour pouvoir faire face aux besoins de l'entretien des routes. Et c'est ainsi qu'on avait institué un prélèvement de 30 francs par litre sur les importations des produits pétroliers. Malheureusement, depuis qu'on a commencé à être producteur, ces 30 francs-là ont disparu. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un problème par rapport donc au financement de l'entretien routier. S'il faut le réinstituer, ça veut dire que le prix à la pompe va augmenter d'autant. C'est ça le problème. Maintenant, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, lorsqu'on est passé de pays importateur à pays producteur, on a supprimé donc ces 30 francs-là qui étaient prélevés sur les prix des hydrocarbures. Le problème donc reste effectivement entier, sauf à dire, il faut maintenant prévoir dans le budget une subvention si l'insertion dans la structure des prix des hydrocarbures n'est pas possible. Donc c'est peut-être la seule solution qui reste. Mais par rapport à ça, nous n'avons pas officiellement été saisis. Et vous venez de soulever le problème, qui est un problème réel et qui est un problème, je pense, hein, je ne sais pas, qui reste entier. C'est-à-dire que le ministre du Plan a des solutions.
Mais pourquoi ne pas envisager sur la taxe oil une retenue automatique pour créer le fonds d'entretien routier? Parce que si nous faisons des efforts massifs pour construire de nouvelles routes et que dans le même temps nous abandonnons à la dégradation des anciennes routes, on dirait que nous manquons de cohérence. Et je pense que tôt ou tard, si nous ne prenons les dispositions qui s'imposent, cette absence de fonds d'entretien risque de poser problème par rapport aux partenaires. Parce qu'ils nous prêtent de l'argent pour faire des routes. Donc moi je suggère fortement au ministère des Finances, au gouvernement en tout cas, que le montant correspondant aux 30 francs qu'on prélevait par le passé sur les produits importés, pétroliers importés, qu'on les prélève sur la taxe oil. Je crois que ça devrait tourner autour de 10 milliards, non? Est-ce que l'État ne peut pas donner 10 milliards pour qu'on entretienne nos routes? C'est quand même, il faut une solution d'urgence. Hein. Mais c'est une suggestion et je pense qu'il faut rapidement y réfléchir parce qu'on ne peut pas laisser l'entretien routier comme ça à l'abandon. C'est pas possible.
Je pense que cela, c'est le président honorable, effectivement, c'est une réflexion à mener en collaboration avec le ministère du Commerce et le ministère du Pétrole pour voir quelle solution, effectivement, trouver pour faire face à ce problème qui risque de se poser très rapidement. Donc, je suis d'accord avec votre proposition, mais je crois qu'il faudra qu'on saisisse très très rapidement le ministère du Commerce et le ministère du Pétrole pour voir vers quoi se diriger, vers quelle solution se diriger, en tout cas assez rapidement.
D'accord. Merci, monsieur le ministre. Merci pour vos réponses et j'ai surtout beaucoup apprécié l'humilité que vous avez montrée et le courage que vous avez manifesté face à certaines questions d'un certain nombre de députés qui auraient paru gênantes ou malvenues pour beaucoup de ministres des Finances. Mais vous avez répondu avec franchise, en apportant les réponses qui éclairent non seulement ces députés, mais l'ensemble du peuple nigérien. Vous n'avez rien caché. Donc le principe de la transparence, vous avez montré qu'elle est aussi valable que le principe de sincérité dans les prévisions et de réalisme également. Donc je voudrais vraiment vous en féliciter parce que c'est de cette manière qu'un gouvernement peut progresser et améliorer ses performances. Ce n'est jamais en cachant ses faiblesses ni en essayant de ridiculiser ceux qui posent des questions qui ne plaisent pas. Donc j'espère que les autres ministres prendront le son de tout ce que vous venez de nous démontrer pour que la gestion de l'État se fasse dans un esprit constructif et non dans un esprit de confrontation. Toute question dans ce domaine, toute interrogation, toute critique même, peut avoir son utilité. Il ne faut rien écarter, tout prendre et utiliser ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on l'oublie. Merci, Monsieur le Ministre.